Vous écoutez Jet FM 91.2, toujours en direct du lieu unique à Nantes, pour suivre le festival Midi-Minuit Poésie. Il est 20h30, l'heure de retrouver Violaine Schwartz et Aude Rabillon pour une lecture-concert intitulée Papier.
En arrière, le vent dans la bouche, une forêt dans la tête, et des pièces de théâtre au titre non moins intrigant. Comment on freine ? J'empêche, peur du chat, que mon moineau ne sorte, le tout édité chez POL, son éditeur fétiche et respecté. Violaine Schwartz ne craint pas non plus la contrainte créative de l'écriture sous contrat. À l'origine de Papier, publié en 2019, il y a une commande du Centre dramatique national de Besançon. Sa mission, recueillir la parole de demandeurs d'asile venus de partout, Afghanistan, Mauritanie, Éthiopie, Arménie, Irak. Ses moyens, j'avais un bureau dans le théâtre, j'avais un dictaphone, j'avais parfois un interprète à mes côtés, écrit-elle dans le prologue du livre. Contrairement à ce qui peut parfois arriver aux œuvres issues de commandes, Violaine Schwartz ne pratique pas l'exercice de style, brillant, mais trop souvent futile et donc vain. Son travail extrêmement fidèle et précis sur la langue est au service de récits concrets et solides, ce qui donne un texte éminemment politique et hélas toujours d'actualité. Tout a un sens dans ce recueil de témoignages, plus terribles les uns que les autres, qui ne font en creux pas honneur à la démocratie bureaucratisée de notre vieux pays, la France, qui se revendique pourtant comme une terre d'accueil. On retrouve ici la capacité de Violaine Schwartz à créer des voix, le souci d'honorer les langages pour en extraire la substantifique moelle, parcours que l'on apparente sans peine à une démarche poétique. L'auteur a travaillé avec le plus grand respect les témoignages qu'elle a recueillis et qu'elle égrène comme une mélopée, car si toutes ces histoires se ressemblent, aucune n'a le même son, aucune n'a le même ton, aucune n'a le même visage que l'on croit apercevoir au détour des phrases grâce à la qualité de l'écriture. Compositrice électro-acousticienne, Aude Rabillon aime de son côté tendre son micro pour récolter les voix des anonymes ou les sons du quotidien. Elle affectionne particulièrement les sons infimes ou les presque rien dans lesquels bruisse le silence fourmillant du monde, les grésillements, le bancal, les grincements, collectionnant tout ce qui décale, froisse ou crisse et nous déplace, poésie de l'instantané, si on sait l'écouter. Les voix des anonymes recueillies par l'une, les sons du quotidien, les bruits du monde tel qu'il va en bien ou en mal proposés par l'autre, devraient nous donner une rencontre particulièrement sensible. Alors assez de futiles bavardages, place à Violaine Schwartz et Aude Rabillon.
Glossaire. ADA, allocation pour demandeur d'asile. AE, arrêté d'expulsion. APMR, arrêté préfectoral de maintien en rétention. APRF, arrêté préfectoral de reconduite à la frontière. APS, autorisation provisoire de séjour. AR, assignation à résidence. CADA, centre d'accueil pour demandeurs d'asile. CNDA, Cour nationale du droit d'asile. CRA, centre de rétention administrative. CR, carte de résident. CST, carte de séjour temporaire. DA, demandeur d'asile. Retour sur le territoire français. LRA, local de rétention administrative. MNA, mineur non accompagné. NA, non admis. OFI, Office français d'immigration et d'intégration.
Retour sur le territoire français.
OFPRA, Office français de protection des réfugiés et apatrides. OQTF, obligation de quitter le territoire français. PA, procédure d'asile accélérée. PADA, plateforme d'accueil des demandeurs d'asile. Ratata, refus d'admission sur le territoire au titre de l'asile.
Paf,
police aux frontières. UNESI, unité nationale d'escorte de soutien et d'intervention.
Zapi, de soutien,
zone d'attente
CST,
pour passagers
de séjour
en instance.
Allocation pour demandeurs d'asile. Demandeur d'asile. A, d'intervention. D'attente pour
zone
passagers
d'attente
pour passagers en instance.
Récit de vie numéro 01 12 62 20 02 21 12. C'était le 8 octobre 2015. Ils sont venus chez moi vers 5 heures du matin. Ils n'ont pas sonné. Ils ont frappé à la porte très très fort. Ils ont frappé tellement fort que j'ai été obligée d'aller ouvrir. Je pense qu'ils auraient cassé la porte si je ne l'avais pas fait. Je ne sais pas comment ça marche ici, mais ils ne m'ont rien montré. Rien du tout, aucun papier de la police. Prends ce que tu dois prendre et viens avec nous. T'as une OQTF, t'as plus rien à faire avec ta famille, t'es majeur. T'as pas voulu rentrer tout seul au Kosovo, maintenant tu viens avec nous. Il parlait plus que vite, c'était très chiant. Il n'y avait pas de traducteur avec eux. C'est parce qu'ils savaient que je parlais le français, c'était dans mon dossier. Je n'étais plus dans le même dossier que ma famille parce que je venais d'avoir 18 ans. Ma petite sœur, elle était mineure. Elle avait le droit de rester en France. Mon père, avec le titre d'étranger malade, il avait le droit de rester. Ma mère, à cause du mariage avec mon père, elle avait le droit aussi. Il n'y a que moi qui n'avais plus le droit de rester parce que j'étais devenue majeure. Ils étaient nombreux à la porte. Il y avait 3 voitures de police garées en bas. Ils ont traumatisé l'immeuble. Parce que oui, ils m'ont menottée pour descendre l'escalier jusqu'à la voiture, alors que je me laissais faire. Ma famille n'a même pas réagi. Ma petite sœur était là aussi. Elle a tout vu. « Vous voulez du café ?» a dit ma mère. On était trop gentils. C'était atroce. Est-ce que je peux voir un document qui prouve que vous êtes bien de la police et que c'est bien vous qui devez m'emmener ? Ils ne m'ont pas répondu. Ils m'ont emmené directement. Je n'ai même pas eu le temps de prendre mes affaires, rien du tout. C'est eux qui ont choisi ma veste, pas moi. Non, je ne veux pas celle-là, il fait froid dehors. C'est ça ou rien du tout. Mon père voulait me donner de l'argent. Est-ce que je peux aller à la banque pour retirer de l'argent ? Ils ont refusé. Du coup, je n'avais rien dans mes poches. On est allé directement à l'aéroport, Bâle-Mulhouse. Ils avaient acheté mon billet au mois d'août, c'était écrit dessus, ils sont venus me chercher en octobre. Tout était programmé. Normalement, ils auraient dû m'emmener d'abord dans un centre d'arrêt, mais je me suis retrouvée directement dans l'avion, entre 4 soldats et 3 policiers. C'était vraiment très chiant. C'était un avion de ligne. À côté de moi, il y avait une dame qui venait de Genève. Elle a crié « Mais pourquoi vous traitez les gens normaux comme des biches ?»« Comme des chiens. » Je me suis trompée, on dit plutôt comme des chiens, non. « J'ai pas le droit de parler avec vous », lui a répondu le policier. Et il m'a poussée sur un siège pour me forcer à m'asseoir. La dame, elle était énervée, choquée. « Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce que tu as fait ? Je viens d'avoir 18 ans et j'ai pas de papier. Elle m'a donné 50 euros. Ça m'a beaucoup aidée pour passer les premières nuits là-bas. Je suis arrivée à 18 heures au Kosovo. Le lendemain, ma copine m'envoie un texto. « Coucou, on se voit cet après-midi ?» Je ne lui avais pas parlé de l'OQTF, ça faisait pas longtemps qu'on était ensemble. « Je suis désolée, mais on ne pourra pas se voir cet après-midi. Je suis au Kosovo. »« Quoi ? Je comprends pas. En fait, tu es rentrée parce que tu te sentais pas bien en France, c'est ça ?» Non, c'est la police qui est venue me chercher. J'ai une OQTF.
C'est quoi, une OQTF? Qu'est-ce que t'as fait?
C'est une obligation de quitter le territoire français. Mais t'inquiète pas, je reviendrai. Je peux pas rester ici de toute façon. C'est trop dangereux. Je reviendrai. Et je suis revenue. 3 mois après. J'ai pris le même chemin que la première fois, mais c'était devenu beaucoup plus difficile. En 2013, on était très nombreux, on marchait dans les villages, la police ne pouvait pas arrêter tout le monde, mais là, en 2016, la Hongrie avait fermé ses portes. Il y avait des policiers et des chiens partout. Je suis restée bloquée 4 jours en Serbie. Il n'y avait plus beaucoup de gens pour aider à passer les frontières. Le 5e jour, j'ai trouvé un Albanais dans un café qui organisait le passage. Demain soir, on essaie. Si tu veux venir avec nous, tu viens. Il y avait 3 Kurdes et un Syrien avec moi. On est monté dans une voiture, on est allé tout en haut de la montagne et ensuite on a marché longtemps pour rejoindre la frontière de la Hongrie dans la nuit, dans la neige. On était en janvier. Près de la frontière, l'Albanais a vu qu'il y avait de la police, on entendait les chiens aboyer. Vous restez là, je vais voir s'il n'y a pas un autre chemin pour passer. Il n'est jamais revenu. Plus tard, longtemps après, on a entendu les chiens de la police s'éloigner. On est passé de l'autre côté de la frontière et ensuite, on a couru. On a couru. On a couru pendant je ne sais pas combien de temps sans nous arrêter. J'étais tellement stressée que je n'étais même pas fatiguée. J'aurais été capable de courir toute la nuit. J'avais un sac rempli de vêtements pour me changer, pour ne pas avoir l'air d'un migrant avec de la boue sur le pantalon. Mais j'avais rien à boire et rien à manger, ça prenait trop de place. On a marché toute la nuit dans les villages qui dormaient. Et le matin, on a trouvé un endroit où il y avait des taxis pour aller à Vienne. 400 euros par personne pour 200 km de trajet. Les chauffeurs de taxi font l'aller-retour toute la nuit, sans s'arrêter. Du coup, ils sont fatigués. Le chauffeur du premier taxi s'est endormi en conduisant. Juste devant moi. C'était atroce. Moi, j'étais dans le deuxième taxi. J'ai vu la voiture par terre, avec des morceaux partout. Mais on ne pouvait pas s'arrêter, c'était trop dangereux. À Vienne, j'ai retrouvé un ami de mon père qui devait me conduire jusqu'à Strasbourg. À la frontière française, ils arrêtaient toutes les voitures pour vérifier les passeports à cause de Vigipirate. Je suis descendue de la voiture. On m'avait dit qu'ils laissaient passer les gens à pied. Je suis passée tout près d'eux, en marchant, et ils m'ont rien demandé. Et je suis rentrée à Besançon. J'ai fait une nouvelle demande d'asile à l'OFPRA. J'avais un rapport d'un médecin du Kosovo qui disait que j'avais été agressée là-bas par les mêmes personnes que la première fois. Ceux qui avaient prêté de l'argent à mon père pour qu'il puisse se soigner. C'est des mecs qui sont devenus très riches en prêtant aux autres. Je les ai croisés 4 fois dans ma vie. Ils font peur. Ils sont très violents, très riches et très violents. Avant, on vivait bien. Mon père était chef de cuisine. Il avait un restaurant. Ma mère dessinait des vêtements. On avait tout. Mais mon père est tombé malade. Pour se soigner, il a dû emprunter 30 000 euros à ces gens-là. C'est pas comme ici, le Kosovo. En France, mon père a été soigné gratuitement, les gens nous ont aidés. Chez nous, il faut payer pour tout. Le problème, c'est que mon père est devenu de plus en plus malade. Il n'a pas pu rembourser les 30 000 euros plus les intérêts. 1 000 euros d'intérêts par mois. Ça faisait 3 ans qu'on avait emprunté. C'était impossible de rembourser tout cet argent, on a été obligés de partir. Mes parents et ma sœur ont pris l'avion, avec un visa pour le Liechtenstein. Et moi, je suis partie à pied parce qu'on n'avait plus assez pour un quatrième visa. Ça, c'était en 2013. Mais quand on m'a renvoyée au Kosovo, en 2015, ils ont tout de suite su que j'étais là, les mecs qui avaient prêté à mon père. Le Kosovo, c'est tout petit. Et ils m'ont frappée pour récupérer leur argent, mais j'avais rien. Et ils m'ont menacée de mort. C'est ce que j'ai raconté à l'OFPRA. Mais ça n'a rien donné. J'ai déposé un recours à la CNDA. Mais le président du tribunal dit que je ne suis jamais retournée au Kosovo, que j'invente, que c'est faux. Mais c'est la police française qui est venue me chercher, non ? C'est pas vrai qu'ils me répondent. Et le document qu'on m'a donné à la frontière ? Le document qui dit « Le 6 janvier 2016, j'ai quitté le Kosovo pour aller en Serbie. » On sait bien comment ça marche chez vous. C'est un faux. Et le passeport que j'ai refait là-bas, c'est un faux. Et le rapport du médecin du Kosovo qui dit que j'ai été frappée là-bas, pareil, c'est un faux. Et la photo de moi sur Facebook, où on me voit dans ma ville, à Prerzen, c'est une fausse. Mais c'est absurde. Je suis pas capable de tricher sur Facebook, moi. J'ai eu une nouvelle OQTF. Maintenant, il me reste la procédure écrite au tribunal administratif de Besançon. Je dois préparer des papiers pour montrer pourquoi je veux rester ici. Ce que j'ai fait jusqu'à maintenant en France, mes bulletins, si j'ai des bonnes notes, si je me suis bien adaptée avec la langue. Et de l'autre côté, le secrétaire général prépare un dossier contre moi. Je sais déjà ce qu'il va dire. Tout ce que tu as fait ici, l'apprentissage de la langue, le lycée, tout ça, ça ne sert qu'à toi. Ça n'apporte rien à la société française. Et tu ne mérites pas de rester puisque tu n'as pas gagné l'OFPRA et la CNDA. Le problème, c'est qu'ils n'ouvrent pas les dossiers. Ils regardent, vite fait. Ils trouvent une réponse comme ça. Mon avocate a demandé à la préfecture un document qui justifie que j'ai été expulsée au Kosovo par la police française, mais on n'arrive pas à l'obtenir. C'est très, très chiant. Je suis allée à la police, on me dit que c'est la préfecture, après on me dit que c'est la police des frontières, après on me dit que c'est la préfecture, et maintenant, j'ai plus le droit de faire un recours, parce qu'ils répondent jamais. Ils le font exprès, pour gagner du temps. Maintenant, c'est trop tard. Alors maintenant, il faut que je fasse le mort. C'est la seule solution. Le mort. Je peux quand même aller au lycée, ils viendront pas m'arrêter à la sortie du lycée. Je suis en bac pro cuisine au lycée Condé. Mais je dois plus trop dormir chez moi, la nuit. Parce qu'ils viennent au petit matin. Et ils frappent à la porte. Très très fort. Mathématiques. Sachant qu'une expulsion coûte en France 20 000 euros. Les estimations du coût d'un éloignement forcé varient entre 12 000 et 27 000 euros par expulsion, selon les sources, l'État ou la CIMAD, et selon ce qui est pris en compte dans le calcul. Sachant donc qu'une expulsion coûte en France 20 000 euros en moyenne, et que 21 000 étrangers en situation irrégulière ont été visés par un éloignement contraint en 2013. Calculez le montant total des expulsions pour le mois de mars 2013 et contextualisez cette somme dans un modèle d'économie plus global. Corrigé ? 21 000 multiplié par 20 000 euros égale 420 millions d'euros par an, que l'on divise par 12 égale 35 millions d'euros par mois. Pour le mois de mars 2013, l'État français a dépensé 35 millions d'euros, soit le salaire de 12 068,96 personnes à raison de 2 500 euros de salaire brut par mois, salaire brut moyen en 2013. Et pendant Pendant ce temps-là, les grues cendrées, les alouettes, les barges rousses, les sansonnets, les oies blanches, les bergeronnettes, les cigognes noires, les cailles des blés, les palombes, les martinets, les passereaux, les hirondelles, les sarcelles, les pigeons bisés, les gobes mouches battent des ailes et volent, volent. Récit de vie numéro 68-48-00-94-21. Je m'appelle Cissé. C'est le nom de feu mon mari qui est décédé. Je voulais garder son nom, mais mon prénom, c'est Djoubou. Voir acte de naissance. Je suis arrivée à Besançon en 2005. Avec mon mari pour faire une demande d'asile. On ne pouvait plus rester en Mauritanie à cause des Maures blancs qui sont racistes comme j'ai jamais vu. En 89, ils ont pris le pouvoir et ils ont arrêté tous les Noirs, tous les gens comme nous, les fonctionnaires, les militaires, les gardes maritimes, les gendarmes, les douaniers. Ils ont arrêté tous les Noirs de l'administration mauritanienne, voire coupure de presse ci-jointe. Et ils ont tué. Tué. Mon mari Cissé était douanier. Il était chef douanier. Quand il partait au travail, je ne savais jamais s'il allait revenir. Un jour, le chef Maure Blanc te convoque et c'est la fin. Ton mari, tu le vois plus et puis c'est tout. Il y en a qui ont été déportés au Sénégal. Il y en a qui ont été jetés dans des bennes, comme des sacs de riz. Le mari de ma sœur, il a été jeté dans une benne. Un matin de malheur, ils ont convoqué mon mari. C'était en août 1990. Ils ont convoqué Cissé, m'a dit un ami de Cissé. Moi, j'étais toute tourneboulée, j'étais comme ci et j'étais comme ça. J'ai commencé à courir partout et à pleurer, Inch'Allah. Et en plus, j'étais en état de grossesse. Reste tranquille, m'a dit l'ami de Cissé. Reste tranquille, je vais le sortir de là. Et il a fait comme il a dit, l'ami de Cissé. 10 jours plus tard, à 2 heures du matin, il est venu me chercher. Viens, viens, couvre-toi, je t'amène dans mon garage, à Nouadhibou. J'ai mis une robe traditionnelle avec un voile et je suis montée dans sa voiture, jusqu'au garage. Plus tard, une autre voiture est arrivée dans la nuit. Et dedans, il y avait Cissé. Il était couvert de sang, il était tout nu, mais il était vivant. Il m'a dit, ça va. Même si ça va pas, nous, on dit toujours, ça va, toujours, ça va. Il était blessé de partout, comme un esclave. On a commencé à pleurer. Non, non, c'est pas le moment, a dit l'ami de Cissé. On va voir ce qu'on peut faire. Mais toi, tu ne peux pas rester dans le garage. Tu rentres chez toi et tu dis à personne que Cissé est caché là, même pas à ta sœur. Tu viens le voir tous les 10 jours, sous ta robe voilée, puis c'est tout. D'accord. C'est comme ça qu'on a fait. J'allais tous les 10 jours à Nouadhibou, caché sous mon voile. Jusqu'en février 1991, où ils ont libéré le Koweït. Saddam Hussein est sorti du Koweït et aussitôt, à 5h du matin, les Maures blancs ont commencé à relâcher les prisonniers noirs dans la nature. Matin de bonheur, Cissé a plus rentré à la maison. C'était la fin du garage. Il y avait partout des maris qui rentraient ce jour-là. Celles qui avaient beaucoup de chance, celles qui avaient 1000 chances, elles ont retrouvé leur mari. Mais beaucoup de maris étaient malades. Ils avaient des cicatrices, sur tout le corps, comme si c'est là-bas qu'il a attrapé sa maladie. En 1992, on a eu un garçon, Ibrahim Cissé, voire extrait de naissance. C'était notre troisième enfant, mais notre premier garçon. En tout, on a eu 6 enfants, voire extrait de naissance. Bon, maintenant, va reprendre ton travail, je lui ai dit. Il y en a des mille et des mille qui sont morts, mais toi, tu es toujours là, joie de mes yeux. Faut bien travailler. Alors finalement, il est retourné au travail. Il ne pouvait rien faire du tout. Il était chef, mais il avait perdu tout son pouvoir. C'était les maures blancs qui donnaient des ordres. Cissé devait baisser la tête, et puis c'est tout. Il ne supportait pas cette situation. Des fois, il refusait d'aller travailler. « Laisse les maures blancs tranquilles », je lui disais. Mais c'était plus fort que lui. « Je ne suis pas votre esclave. Je suis plus noble que vous. Si vous voulez me tuer, je m'en fous, mais je ne marche pas derrière vous. Jamais, jamais. » C'est pour ça qu'on a dû partir en exil. On a choisi la France, la patrie des droits de l'homme. Mais c'était difficile d'obtenir un visa. L'ambassade de France ne donne pas de visa à des gens comme nous. Finalement, c'est son parrain qui nous a aidés. Il travaillait à l'ambassade d'Espagne, en Mauritanie. On est parti le voir et on a causé longtemps, longtemps. Vous ne pouvez pas emmener les enfants avec vous. Sinon, on va voir que vous voulez vous enfuir. Vous dites que vous partez en vacances pour un mois et puis c'est tout. On a fait comme il a dit. On a déposé les enfants au Sénégal chez des amis et puis on est parti en 2005. On est passé par la Tunisie, escale, puis par l'Espagne, escale, puis on est arrivé à Paris et finalement on a pris un train pour Besançon où j'ai mes frères. J'ai 2 frères à Besançon depuis longtemps, ils sont toujours là. Voir copie facture EDF-GDF et voir copie avis de loyer. On a fait une demande d'asile. Voir copie récépissée. À l'époque, il n'y avait pas encore le problème des empreintes, donc on avait le droit de faire une demande d'asile en France, même si on était passé par l'Espagne. Mais Cissé était fatigué. Il était trop fatigué. Complètement fatigué. Un jour, ça allait, le lendemain, plus. Un jour, oui, un jour, non. Finalement, on est parti à l'hôpital, sa maladie était revenue. On a obtenu le droit de rester en France avec le titre « étranger malade ». 6 juin, les copies des autorisations provisoires de séjour délivrées par la préfecture en mars 2006. Mais Cissé, il voulait savoir le nom de sa maladie. Il ne voulait pas qu'on lui cache la vérité. On lui a dit qu'il avait un cancer en phase terminale. Parfois, il s'endormait et les médecins disaient que c'était fini et puis il se réveillait. Moi, j'étais tout le temps à l'hôpital. Je dormais là-bas, tous les jours. Je connaissais toutes les infirmières. Ils voulaient même me donner un travail tellement j'étais toujours là. Je faisais partie des murs. Mais un jour, Cissé a dit qu'il voulait retourner en Mauritanie pour mourir chez lui et revoir les enfants. Une dernière fois. J'avais fait tous les papiers pour l'asile. J'avais presque un travail à l'hôpital, mais il voulait qu'on rentre. C'était sa dernière volonté. Alors finalement, je l'ai ramené au pays. Et on est retourné à Nouakchott, dans la famille de Cissé. Les enfants sont venus nous rejoindre. Un matin, Cissé me dit tout à coup, « Je vais sortir pour m'acheter un portable. »« Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça ?»« Allez, allez, je veux un portable. » J'ai dit d'accord. Normalement, il ne devait pas sortir, ce n'était pas sage du tout. Les maures blancs savaient qu'il avait demandé l'asile en France. Ça voulait dire qu'il était contre le régime, opposant et tout et tout. Cissé, il s'en fichait, il voulait son portable. À la fin, il avait des drôles d'idées, des drôles d'envie. Je ne pouvais pas lui dire non. Il est sorti dans la rue et tout de suite, il s'est fait repérer. La nuit, ils sont venus nous voir, les maures blancs. « Maman, il y a des gens à la maison. Mais qu'est-ce que vous voulez? On veut causer avec Cissé. Mais laissez-nous tranquilles. » Il y avait tout un approutement dehors. Ils ont fini par partir, mais en jetant des insultes, en crachant sur notre porte, les maures blancs. On a pleuré, parce que ça recommençait, comme avant. « Tu vas partir, Cissé, » je lui ai dit. « Tu vas partir et tu vas me laisser toute seule avec ce problème. » 2 semaines après, il est décédé, le 6 juin 2006, à 9 h du matin. Dans notre culture, il faut rester 4 mois et 10 jours en deuil, sans sortir de la maison. C'est ce que j'ai fait. Et ensuite, le titre de séjour pour retourner en France n'était plus valable. J'avais attendu trop longtemps. J'ai mis les enfants à l'abri au Sénégal parce que j'avais de nouveau peur des maures blancs. Jour de malheur. Je ne savais pas où me mettre. Je me cachais de maison en maison. Je voulais revenir en France, mais je ne trouvais pas de visa. En 2012, finalement, il y a son ami, toujours le même, l'ami de Cissé, qui m'a aidée. Il connaissait une personne au consulat. On a vendu un terrain, on a payé quelqu'un dans un bureau et finalement, j'ai eu un visa à Schengen, 6 ans après. J'ai repris la même route. Tunisie, escale, Espagne, escale, Paris, Besançon, 6 ans après. J'ai repris les démarches que j'avais commencées avec mon mari en 2006. La préfecture m'a donné rendez-vous le 7 septembre 2012. Ils m'ont reconnue tout de suite. Mais c'est Madame Cissé, mais vous étiez où ? J'ai ramené mon mari au pays, c'était sa dernière volonté. Mais vous aviez commencé les démarches pour l'asile. Oui, mais on a été obligé de tout arrêter. Et là, j'ai donné mon passeport. Et alors, ils ont vu que j'étais rentrée par l'Espagne. C'est le visa Schengen qu'ils ont dit. Faut voir avec l'Espagne. Quoi ? Oui, l'Espagne. Fallait que je demande l'asile en Espagne. Mais je connais pas l'Espagne. J'ai rien à voir avec ce pays. Moi, je parle le français. Ils m'ont placé Dublin. Quoi ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai crié tant que j'ai pu. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que j'irai faire en Espagne ? Je connais personne là-bas. J'y ai jamais posé le moindre pied. La Mauritanie, avant, c'était l'AOF, l'Afrique occidentale française. Je veux aller en France. Personne m'a écouté. J'ai parlé pour les mouches. Un matin, les policiers sont venus me chercher chez mon frère. Par chance, je n'étais pas là. Il m'a appelé aussitôt. Cache-toi, sinon l'Espagne. Je suis allée chez mon autre frère. Reste là, ma tante. Je me suis cachée pendant une semaine. Finalement, ils ont oublié de venir me chercher. Alors j'ai fait des dossiers et des dossiers et des dossiers pour pas aller en Espagne. L'assistante sociale, qui était très gentille, m'a dit « Mais madame Cissé, il fallait pas leur donner le passeport avec le visa, il fallait pas dire la vérité, personne ne voulait la vérité. Mais j'ai le droit de faire mon asile où je veux et la préfecture me connaît, j'étais déjà là il y a 6 ans. » J'ai tout apporté à l'assistante sociale. Tout le dossier de mon mari malade, carte vitale, facture de l'hôpital, chimiothérapie, récépissé de l'OFPRA, tout, tout, tout. Et on a tout photocopié pour la préfecture. Des papiers, des papiers, des papiers, des enveloppes grosses comme ça. Et on a attendu, et encore attendu. Et finalement, ils ont accepté que je demande l'asile en France, mais en procédure prioritaire. Vous passez à l'OFPRA, mais si l'OFPRA dit non, vous rentrez chez vous, il n'y a pas de recours possible. Pourtant, la Mauritanie n'était pas dans la liste des pays sûrs. J'avais droit à l'asile normal, mais c'était pour me punir parce que j'avais refusé d'aller en Espagne. Alors on a encore fait des lettres et des lettres et des lettres pour que j'aie droit à l'asile normal. Et on a encore attendu pendant des mois et des mois et des mois. Et pendant tout ce temps, je n'avais pas d'argent, je n'avais pas le droit de travailler, je ne pouvais pas rester chez mon frère, c'était trop petit. J'ai dormi dans un garage. J'allais manger au Resto du Cœur. Et un matin de bénédiction, tout à coup, j'ai reçu une lettre recommandée. Tout à coup, je n'étais plus prioritaire. Tout à coup, j'avais droit à tout, à une allocation, à un logement. Ils étudiaient mon dossier pour l'asile normal. Je suis allée au CADA pour trouver un logement. Mais il n'y avait rien à Besançon, ils m'ont placée à Belfort. Moi, je ne connaissais pas Belfort, mais je ne pouvais pas refuser. Je me suis installée là-bas. Et j'ai encore attendu et attendu et attendu la réponse de l'OFPRA. 1000 jours, j'ai attendu. Et finalement, j'ai obtenu l'asile. L'asile normal. Mais maintenant, j'ai tous mes enfants au Sénégal. Et comment je fais pour les revoir ? J'ai le droit de faire venir mes 2 enfants mineurs. Mais il faut qu'ils aient un passeport. Et la Mauritanie refuse de les faire en disant qu'ils ne sont pas mauritaniens. Elle dit qu'il faut demander au Sénégal. Et le Sénégal refuse aussi, sous prétexte qu'ils ne sont pas sénégalais. Et moi, je ne sais plus quoi faire. Et mes enfants majeurs, c'est tout de même mes enfants encore. Comment je fais pour les voir autrement que sur Skype ? Comment je fais pour les faire venir à Belfort, chez moi, rue de Madrid, à Belfort ? Parce que j'habite rue de Madrid. Si, si. Rue de Madrid, finalement, ils ont quand même réussi à me caser en Espagne. Inch'Allah.